fil des joies.
Aujourd'hui, notre invitée, c'est Roxane Killa dans les studios. Bonjour Roxane.
Bonjour à toutes et à tous.
Et avec nous, on n'est pas tout seul puisqu'il y a Raphaël d'Exploration. Salut Raphaël.
Salut Léo.
Et Manon, notre service civique.
Salut.
Mais alors Raphaël et Manon, si vous êtes là, ça veut dire qu'on va peut-être parler de jeux vidéo, c'est ça?
Peut-être, oui.
Et oui Roxane, parce que vous êtes enseignante chercheuse à l'université de Bordeaux-Montaigne. Vous êtes médiéviste, donc spécialiste de l'histoire médiévale.
Tout à fait.
Et aussi, et ça c'est ce qui nous a particulièrement plus, c'est que vous avez été consultante pour le studio de développement de jeux vidéo Asobo. Ils sont sur Bordeaux, ils font des super jeux vidéo et ils ont sorti un jeu vidéo il n'y a pas longtemps qui s'appelle A Plague Tale Requiem, qui fait suite à Innocence. On va parler un petit peu de tout ça. Alors pour commencer, Roxane, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours universitaire?
Oui, c'est une longue histoire. J'ai toujours été une bonne élève et je suppose que ça joue quand on devient prof un jour. Et je tiens à dire d'emblée qu'en tant qu'enseignante, j'essaie de me souvenir que moi, j'ai toujours été une bonne élève et que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, j'ai un parcours un peu qui suit un balisage un peu tout tracé. Je suis allée en prépa après le bac. J'ai été reçue au concours de l'École normale supérieure de Lyon. Et c'est un cadre donc qui est extrêmement privilégié puisque vous êtes rémunéré en tant que fonctionnaire stagiaire pour faire vos études. Et j'étais inscrite comme élève étudiante en histoire à l'ENS de Lyon, où j'avais des cours, et parallèlement à l'Université de Lyon 2 où j'ai obtenu une licence. J'ai préparé les concours de l'enseignement, obtenu l'agrégation d'histoire en 2008 si je ne me trompe pas. Et l'année d'avant, l'année d'après, j'ai travaillé à un master 1 puis master 2 donc en histoire du Moyen-Âge sous la direction du professeur Patrick Gilly à l'université de Montpellier. Après ça, j'ai décidé de m'engager en thèse parce que l'expérience du master et mon sujet de master semblaient établir qu'il y avait de la place et de quoi faire une thèse. Et j'ai obtenu une allocation, un financement. C'est important de parler d'argent quand on fait ses études.
Ah bah oui, évidemment, on n'en a pas beaucoup d'habitude.
Et ça m'a permis d'être inscrite en co-tutelle entre Montpellier et Naples parce que ma thèse portait sur la cour de Naples au milieu du 15e siècle. Et passé ces 3 années de contrat doctoral, où donc j'avais un financement qui me permettait de faire mes recherches et j'avais déjà des cours à donner à l'université de Montpellier, j'ai obtenu un autre financement qui est une opportunité extraordinaire. J'ai été membre scientifique de la Casa de Velázquez, qui est, je ne sais pas si ça vous parle, l'équivalent un petit peu de l'école française de Rome, mais dans la péninsule ibérique, avec une sorte de siège, un bâtiment splendide à Madrid, qui D'accord. accueille des artistes en résidence et des chercheurs qui développent des travaux sur la péninsule ibérique. Et c'est le moment, normalement, si vous suivez, où vous dites, mais elle travaille sur Naples, qu'est-ce qu'elle trafique?
Oui,
en Espagne,
vrai,
voilà. C'est parce que les archives de Naples ont brûlé pendant la Seconde Guerre mondiale et la dynastie que j'étudie, qui exerce le pouvoir au milieu du 15e siècle à Naples, est d'origine ibérique. Donc on a à Barcelone et à Valence, donc dans l'ancienne couronne d'Aragon, des fonds d'archives qui correspondent à cet exercice du pouvoir à cette période en Italie. Donc c'est un parcours scientifique très chouette et qui, moi, m'a passionnée, puisque pour travailler sur l'Italie, il a fallu partir en Espagne.
Ah oui, c'est original. C'est un parcours extrêmement riche que vous avez, Roxane.
Oh, mais attendez, c'est pas fini.
Et c'est pas fini. Bah, alors dites-nous tout. Nous, on adore les histoires longues.
Une fois qu'on est docteur, souvent on est précaire après.
Oui.
Et donc j'ai enchaîné des contrats d'ATER, A-T-E-R, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Et les étudiants qui nous écoutent assurément ont beaucoup de ces A-T-E-R parmi leurs enseignants. Voilà, des jeunes chercheurs qui sont encore en thèse ou qui viennent de finir leur thèse. Je l'ai été à l'université de Lille pendant 2 ans, je l'ai été à l'université de Besançon pendant 1 an, puis j'ai obtenu un contrat postdoctoral d'un an à la Sorbonne dans le cadre d'un gros projet de recherche qui s'appelle le LabEx Aztec. Donc rien à voir avec les Aztèques, vous savez, l'Amérique centrale, etc. Absolument pas. Il s'agit des techniques et des de la circulation des savoirs au Moyen-Âge, donc ne me demandez pas de justifier cet acronyme. Et donc après ce postdoc de 1 an, j'ai été recrutée à l'université Bordeaux-Montaigne, où j'ai fait ma première rentrée en 2018, et c'était mon premier poste de titulaire, et un soulagement absolument immense, parce que moi j'étais très découragée de l'état du recrutement universitaire et des conditions dans lesquelles je pouvais me projeter dans l'avenir ou pas à l'université en tant qu'enseignante-chercheuse. Et en fait, j'étais prête à tout lâcher pour prendre mon poste dans le secondaire. Le collège Marie-Curie à Tourcoing me tendait les bras. Et ah oui. J'avais mon poste et tout. Et finalement, j'ai été recrutée ici. Je suis venue parce que je pense que je suis plus à ma place, parce que je suis spécialiste du Moyen-Âge, donc plus à ma place à enseigner le Moyen-Âge ici qu'à être au collège ou au lycée.
C'est la précarité justement de tous les statuts qui conduisent à une titularisation qui vous a découragé en fait.
La précarité, j'étais privilégiée dans les précaires parce qu'à chaque fois j'ai eu un contrat d'un an. Il y a des gens qui ont des contrats de quelques semaines, de quelques mois, qui font des vacations et qui sont dans des conditions qui sont bien plus difficiles que celles que moi j'ai connues. Donc globalement, j'ai eu un parcours hyper privilégié et il faut le redire. Ce qui est extrêmement décourageant, c'est la quantité astronomique de candidatures que vous faites, vous ventilez, en fait, vous envoyez, vous arrosez. Il y a des dossiers qui partent dans toute la France, à l'étranger, etc. Et au lieu de faire de la recherche, vous passez votre temps à rédiger des projets de recherche ou à annoncer que vous allez faire telle ou telle recherche pour obtenir un emploi. Et parfois, vous êtes auditionné, vous avez des auditions, des échéances importantes à préparer. Pendant ce temps-là, la recherche n'avance pas. Et donc, j'avais vraiment l'impression d'une spirale infernale. Et donc, c'est pas tant la précarité du statut que le fait qu'on s'épuise la moitié de l'année juste pour obtenir un nouveau contrat précaire. Et pendant ce temps-là, en fait, rien de significatif ne se déroule en termes de recherche.
Oui, sans jamais avoir vraiment une lumière certaine au bout du tunnel.
Voilà, donc ça m'avait profondément découragée.
Bon, en tout cas, vous avez réussi. Bravo. Vous êtes donc tout va bien. Là, c'est la vie de rêve. Tout est génial.
J'irai pas jusque là.
Toujours exagéré pour.
Non, mais j'ai le statut de Prague. J'ai été recrutée non sur mon titre de thèse et mes travaux de chercheuse, mais en tant qu'enseignante du secondaire rattachée à l'université. Ce qui concrètement signifie que j'accomplis le double du service d'enseignement d'un maître de conf ou d'un professeur des universités. Donc, c'est un poste qui est défini comme étant uniquement un poste d'enseignement. Mais évidemment, enfin, je suis chercheuse et j'ai un CV qui, je pense, est tout à fait comparable à nombre de mes collègues qui sont maîtres de conférences et je continue à faire de la recherche. Donc j'ai beaucoup moins de temps qu'eux et je continue parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans, quand même, c'est difficile d'arrêter. Et je suis très heureuse d'être titulaire de mon poste et je dois dire que j'ai été extrêmement bien accueillie par mes collègues qui sont charmants. Mais j'aspire à devenir maître de conférence et à avoir plus de temps pour mes recherches, de sorte que tous les ans, quand les postes sont publiés dans d'autres universités, je regarde et je continue à envoyer mes petits dossiers de candidature. Mais au moins ici, je peux me projeter sereinement dans l'avenir.
Donc ça n'arrête pas. Vous êtes une bonne élève, une très bonne élève, vous nous l'avez dit, mais justement, qu'est-ce qui a déterminé votre passion pour le Moyen-Âge ?
C'est pas évident, mais je pense que c'est un choix un peu en creux, un choix négatif, parce que quand j'étais en prépa, dans la perspective de passer les concours des ENS, j'ai fait de l'histoire de l'Antiquité, de l'histoire moderne et de la contemporaine à gogo, parce que forcément la contemporaine c'est très important dans les programmes d'enseignement, et j'avais pas fait d'histoire médiévale. Et par ailleurs, j'étais latiniste, et j'étais une latiniste à peu près correcte, parce que au lycée je faisais du latin, en prépa j'avais fait du latin. Donc quand je suis arrivée à l'ENS de Lyon, j'avais cet atout dans ma manche de me débrouiller en latin, et l'idée que j'avais déjà un peu un bagage en termes d'études, d'histoire, mais que j'avais jamais fait de Moyen-Âge. Donc je me suis dit que si on me demandait quelle était la spécialisation que je choisirais, ce serait le Moyen-Âge pour aller là où j'étais pas encore allée. Et j'ai absolument pas regretté. Et plus je me consacre à cette période, c'est 1000 ans quand même, hein, donc il y a de quoi faire. Et,
oui.
Et dans mes recherches, évidemment, la chronologie, où je suis vraiment spécialiste et à l'aise, hein, c'est une chronologie, un espace relativement réduit. Mais dans l'enseignement, j'enseigne le millénaire médiéval et en Occident, au Proche-Orient, dans l'Empire byzantin. Donc... on peut pas dire qu'on fasse rapidement et facilement le tour, et ça maintient en fait l'intérêt, je trouve ça passionnant.
Et avec vous, le Moyen-Âge sort des livres, sort du cadre universitaire, notamment grâce à des œuvres de fiction. Vous avez été consultante, on l'a dit en intro, auprès des développeurs Asobo, qui sont à Bordeaux. Ils ont fait A Plague Tale Requiem, qui est le deuxième opus de A Plague Tale, enfin la suite de Innocence. Vous avez été consultante pour ce deuxième opus, mais pas sur le premier, hein, pas sur Innocence.
C'est ça, pas sur le premier, ils se sont débrouillés sans historien.
D'accord, oui. Mais sur le deuxième, comment ça s'est passé justement la rencontre avec ces développeurs ? Est-ce que c'est eux qui ont fait appel à vous ? Ou est-ce que c'est vous qui avez dit « stop, là il vous faut une historienne » ?
J'aurais pas osé dire « stop, il vous faut une historienne ». Non, le premier volet a rencontré un grand succès et ils se sentaient attendus au tournant, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, pour le second volet. Donc ils ont demandé aux historiens qui connaissaient, et en l'occurrence ils ont fait passer le mot auprès de mon collègue Nicolas Patin, qui lui travaille en histoire contemporaine et qui ensuite nous a mis en contact en disant bah voilà, Roxane, il cherche quelqu'un en médiéval, je pense que ça pourrait aller. Et après on a échangé quelques mails et je suis allée les voir tout de suite au studio pour les rencontrer et voir si on se convenait mutuellement, parce qu'il n'y avait pas eu d'historien sur le premier opus, si je me souviens bien, parce qu'il y avait eu des tentatives de mise en place de collaboration, mais visiblement ils n'avaient pas trouvé chaussure à leurs pieds. Et quand j'y suis allée, j'avais clairement l'impression qu'ils vérifiaient, enfin que c'était pas acté, qu'ils allaient prendre une historienne ou moi en l'occurrence ou quelqu'un d'autre, mais il fallait voir qu'on se convenait mutuellement.
Alors très rapidement, pour les auditeurs qui découvriraient le jeu, Raphaël et Manon, A Plague Tale, ça parle de quoi ?
A Plague Tale Innocence, donc c'est un jeu sorti en 2017-2018, je ne sais plus trop la date
dans
de sortie.
Dans ces eaux-là.
Dans ces eaux-là, à peu près. Donc c'est un jeu qui se déroule aux alentours de la guerre de 100 ans, de mémoire, où en fait, on est dans la période de la peste noire et il va y avoir une invasion de rats qui va envahir toute la région. Enfin, le jeu, c'est pas spécifié, mais on comprend que ça se déroule en Gironde, en tout cas, enfin, dans ce qu'était avant la Gironde. Et dans le jeu, on suit la famille De Rune, donc avec Amicia et Hugo De Rune, et on les suit au travers de 18 chapitres autour de tout un univers, tout un scénario plutôt fantaisiste quand même, autour de Hugo qui aurait une maladie qui l'empêcherait justement de se déplacer et qui aurait un rapport avec cette épidémie de peste. Du coup là, le premier jeu couvrait tout le début en fait de cette invasion et se terminait sur une note une note mystérieuse, et ils ont décidé d'en faire un second jeu. Qui du coup est sorti en novembre
le 18 octobre,
c'est ça, hein.
je ne sais plus toutes les dates, je suis désolé, mais du coup oui, en fait ce qui est intéressant du coup, parce que par rapport à ce que vous disiez, ils n'avaient pas d'historien pour le premier jeu. De mémoire, il me semble que le premier jeu, en fait, Asobo, ils ont deux gros jeux sur lesquels ils travaillent. Donc, c'est les A Plague Tale et Microsoft Flight Simulator, qui est du coup un jeu de commande, qui est pour Microsoft, donc. Mais du coup, A Plague Tale, pour eux, c'était le premier, c'était vraiment un jeu qui leur permettait d'aller sur un autre pan du jeu vidéo, qui est du coup le double A, donc qui a un gros budget. Et l'idée principale de ce Plague Tale Innocence, du coup, c'était quand même de proposer une aventure surtout scénarisée avec comme décor l'univers médiéval. Mais comme vous le dites, ils ne sont pas inspirés d'historiens. Alors, les raisons, on ne les a pas là, du coup, mais on peut aussi se douter que ça peut être pour des raisons financières, parce que c'était un de leurs premiers jeux où, justement, ils commençaient à mettre l'argent sur le plateau.
Il y a Roxane qui lève les yeux au ciel.
Non, vous savez, les historiens ne coûtent pas très cher par rapport à... l'élaboration, la production d'un jeu vidéo. C'était absolument pas le problème, si j'ai bien compris, mais vraiment une équipe qui était attachée à son histoire. Mmh. Et ce qui est hyper frappant quand vous discutez, notamment avec Sébastien Renard, qui dirige l'équipe qui écrit en fait le jeu, c'est qu'il voulait que ce soit un jeu historique, mais pas dans la reconstitution, faire un décor absolument précis. Ce qui est l'élément moteur du jeu, c'est les relations humaines et la dynamique entre les personnages, Amicia et son frère. Mmh. Et bah, clairement... c'était difficile de nouer une discussion productive à ce stade. Et je pense qu'ils ont vite renoncé au travail avec l'historien qu'ils avaient contacté, donc une nouvelle fois, si j'ai bien compris, parce que en fait, ils voulaient déjà d'abord créer leur univers, leur personnage, leur dynamique. Et c'était un préalable pour eux indispensable. Et c'est une exigence très forte que moi, j'ai vite ressenti en les rencontrant. Je trouve que c'est la qualité du jeu et de l'écriture, c'est qu'il n'y a pas le côté c'est une expérience immersive, vous vous baladez dans un décor médiéval. Non, c'est une histoire qui a de la chair, qui a des personnages qui ont une densité, une profondeur et qui ont des interactions intéressantes entre eux. Et l'histoire est un élément, la reconstitution historique, disons, est un élément qui est clairement subordonné à cette profondeur des personnages. Et en tout cas, c'est une direction de développement de l'écriture avec laquelle moi je me suis trouvée bien à l'aise, parce que c'était posé très clairement en fait d'emblée. Okay.
Et justement, donc vous, en tant que consultante et qu'experte en période médiévale, comment est-ce que vous avez compris les aspects ludiques du studio et les adapter en fonction de la cohérence historique qu'il recherchait?
Comment j'ai compris les aspects ludiques? Il a fallu m'expliquer au début, parce que je ne joue pas aux jeux vidéo. Et autant je consomme avec assiduité des romans de science-fiction, de fantasy, des polars, et aussi je regarde des films, des séries comme ça, de façon très hétéroclite. Je ne suis pas snob, vous voyez, genre la culture avec un grand C, et je lis que les prix Goncourt, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai jamais joué aux jeux vidéo parce que le côté manipulation m'a jamais attiré. Avoir
l'aspect,
une manette.
L'aspect ludique.
Ouais, la manette m'a jamais intéressée, mais le côté immersif quand même, c'est hyper... c'est fascinant. Et donc, ils m'ont expliqué d'emblée qu'il y avait des choses qui relevaient du gameplay et que c'était en place et qu'on ne pouvait pas y toucher, qu'il fallait faire attention, des choses qui n'étaient pas modifiables parce que ça relevait du gameplay. Et c'était posé d'emblée. Par exemple, quand j'ai vu les images pour la première fois, j'ai dit, mais... c'est pas possible, c'est des rats géants. Bah oui.
Oui, c'est l'aspect fantasy qui du coup vient s'opposer à la reconstruction historique. Quoi.
Voilà, et clairement, ça c'est un élément ludique qui en fait est la signature du jeu. Donc j'ai vite compris après qu'on n'allait pas rendre aux rats une taille réaliste de la même façon que Amicia, qui est évidemment un personnage féminin impossible pour le XIVe siècle. Elle se bat, elle a des pantalons. Les femmes ne sont pas dotées de cette autonomie à l'époque, mais le jeu vidéo est un produit de consommation pour le 21e siècle. Donc évidemment, les représentations sont importantes et évidemment, on a un personnage féminin auquel on ne va pas toucher, dont je suis ravie qu'il existe en tant que femme et historienne. Et ça fait partie des choses qui étaient assez faciles à discriminer dans mon travail avec eux, la discussion avec eux. Il y a des choses qui touchent donc au gameplay, les machins que je comprends pas très bien forcément, on me dit ça, on n'y touche pas, ok. Et des choses qui touchent vraiment à la nature des personnages, de l'histoire, du projet auquel on ne touche pas. Quand bien même, c'est anachronique. Et par contre, autour de ça, pour certains costumes, certains décors, certaines attitudes, là, j'avais la possibilité de faire un retour sur ce que je voyais et de proposer des choses pour améliorer ce qui était en place. Mais je dois le dire, il s'était débrouillé tout seul sur le premier opus et vraiment bien débrouillé. Ils ont beaucoup travaillé travaillé, ils ont bien travaillé et ils ont lu des historiens. Et la première chose que j'ai faite pour eux, c'est un retour sur un fichier où il y avait les costumes des personnages et il y avait énormément de choses qui étaient déjà très bien. Et moi, ce que j'ai suggéré, par exemple, pour les personnages de l'aristocratie, c'était d'ajouter de la fourrure, y compris sur les tenues d'été. Il y avait de la fourrure sur les encolures, les manches, etc. Mais donc vraiment une façon d'ancrer l'histoire et ce qu'on appelle la culture matérielle en histoire. Les objets, l'architecture, les décors, rectifier ce qui pouvait l'être, améliorer ce qui pouvait l'être. Mais évidemment, c'était pas moi le pilote dans l'auto, quoi.
Et justement, est-ce que, donc on l'a vu un petit peu, mais collé au contexte historique, dans un jeu, ça demande de faire des concessions en fait en termes de cohérence pour quand même garder l'aspect ludique et de toute façon ce qu'ont écrit les développeurs. Mais est-ce que dans le produit final, en fait, il y a quand même peut-être des énormités ou des choses où vous dites bon bah là c'est pas précis, mais bon bah c'est un jeu vidéo quoi.
Absolument, il y a des choses qui sont énormes, qui ne conviennent pas, notamment dans tout ce qui va toucher les croyances, la religion. Mais c'est normal et ça fait partie aussi des choses dont j'ai bien conscience qu'on n'y touche pas, parce que c'est ce que nous autres spécialistes du Moyen-Âge, on appelle le médiévalisme. Le médiévalisme, c'est l'appropriation dans la culture contemporaine d'un Moyen-Âge imaginaire, stéréotypé, dont on pense que c'est le vrai Moyen-Âge. Mais c'est un Moyen-Âge qui a été passé à la moulinette des reconstructions du 19e siècle, du romantisme, du nationalisme aussi, qui a pas mal configuré l'écriture de l'histoire, des histoires nationales. Donc, le Moyen-Âge, tel que le grand public se le représente, et les gens qui vont aller acheter le jeu ou qui vont aller voir un film sur le Moyen-Âge au cinéma, ce Moyen-Âge-là est un truc complètement artificiel, composé d'un petit peu de réalité et d'un montage de stéréotypes ou d'anachronismes de choses appartenant à plusieurs périodes aussi montées ensemble. Et en tant qu'historien, spécialiste de cette période, on ne peut pas aborder notre période avec le grand public, et notamment dans le cadre du divertissement, sans apprendre à composer avec le médiévalisme, parce qu'il fait partie de l'horizon d'attente, de ce que le public veut trouver. Et quand vous avez un film à vendre, une fiction à vendre, un jeu, un roman, je ne sais pas quoi, si l'historien arrive, vous savez, dans une position très académique de censeur en disant « bah non, mais ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est anachronique » et qu'on dégage des trucs en fait que les gens ont envie de voir, par exemple d'horribles membres du clergé, des formes de fanatisme, d'obscurantisme, des choses qui ne sont pas forcément très, très fidèles à la spiritualité médiévale. Mais si vous voulez les condamner, si vous proposez leur élimination systématique, en fait, vous détruisez les aspects médiévalistes des fictions historiques et vous vous mettez complètement en porte-à-faux avec le public aussi qui a envie de consommer ça. Et il faut comprendre le fonctionnement et laisser exister aussi ce Moyen-Âge imaginaire. Et je pense que c'est important et intéressant après d'avoir un positionnement d'historien et de montrer au grand public comment ça marche.
Manon.
Oui, je voulais revenir du coup sur ces éléments qu'on ne peut pas toucher pour le bien-être du jeu. Et je me demandais du coup par rapport au jeu, les personnages parlent français. Est-ce qu'à l'époque on parlait comme ça, avec cet accent-là, ces intonations? Est-ce que c'était la même langue française ou pas?
Ah non, absolument pas. Ils parlaient l'occitan, des formes de dialectes qui sont en plus très variables selon les régions. Et les accents bougeaient et se modifiaient extrêmement rapidement, passaient des zones d'une centaine de kilomètres. Après, la façon de prononcer certains mots changeait, ce qui n'empêchait pas les gens quand même de se comprendre, puisque on faisait un effort, on était très tolérant aussi, beaucoup plus que dans nos sociétés contemporaines où on a une expression parfaitement standardisée. On était très tolérant envers les variantes et la prononciation des uns et des autres. Et on faisait l'effort de s'écouter et de se comprendre. Et notre documentation écrite et beaucoup d'œuvres médiévales copiées dans les manuscrits, etc., que peuvent étudier mes collègues, notamment les littéraires, portent des variantes graphiques, notamment des altérations vocaliques qui gardent la trace des accents et des différentes formes, par exemple de l'occitan médiéval.
Chose rigolote dans Plague Tale Innocence, bon, je pense que c'est pareil dans Requiem, moi je l'ai fait en anglais, et les personnages qui sont français parlent anglais, mais avec un énorme accent français, et les soldats anglais que l'on peut croiser ont bien un accent british, donc comme ça on peut voir. Mais donc comme vous disiez, Roxane, en fait, pour avoir une œuvre qui soit à la fois précise, ou en tout cas plutôt cohérente, mais qui plaise au public, il faut jongler avec ces clichés qu'on a du Moyen-Âge, donc ce côté médiévaliste, c'est ça, et vraiment la version historique. Parce que là, quand on pense Moyen-Âge dans une œuvre de fiction, on s'imagine que tout est marron, tout est sombre, il y a de la boue, les gens toussent, il y a les seaux qui se déversent avec des mouches. Mais dès qu'il y a une pointe de fantaisie, là, tout est propre, tout est, y a pas un déchet dans la rue, on voit les pavés qui brillent. Le Moyen-Âge, c'était aussi sale que ça présentait? Évidemment que non. Mais j'ai toujours l'impression qu'on met les taquets au maximum quand on veut le représenter dans une œuvre de fiction.
Absolument, ça fait partie des stéréotypes sur la période. Et il ne s'agit pas pour moi de nier auprès de vous la crasse, la saleté des rues, en particulier en fait en contexte urbain, puisque les sociétés anciennes, mais à n'importe quelle période, vont avoir des difficultés à gérer les déchets à partir du moment où on atteint une certaine taille d'agglomération, ce qui en fait est tout à fait... compréhensible encore dans le monde de contemporain. Et c'est rigolo parce que justement, il y a quelques semaines en TD avec mes étudiants de L2, on a commenté les statuts urbains de la ville d'Avignon au XIIIe siècle avec des tas de règlements expliquant que non, il ne faut pas jeter les eaux usées dans la rue et que les cadavres de chats et de chiens doivent être jetés directement dans le Rhône ou la Durance. Donc c'est des choses assez intéressantes. Parce qu'on a donc évidemment des difficultés liées aux questions de salubrité, mais aussi donc une volonté de mise en œuvre d'une politique édilitaire de propreté, de sûreté dans la ville. Et ça, c'est caractéristique de la période médiévale. On a parfois des choses qui sont plus ou moins bien faites, notamment là, dans la propreté des villes, il y a énormément à redire, mais quand vous prenez tous les textes réglementaires, le fonctionnement des métiers, par exemple les corporations, des bouchers, ou toutes les interdictions qui sont faites de mener des activités polluantes en ville, les tanneurs, donc ça concerne la boucherie aussi, on essaye de les mettre à l'écart, enfin de veiller autant que possible à une salubrité minimale. Et par ailleurs, ça je tiens à le dire, les représentations sur la crasse, mais la crasse des individus, l'hygiène corporelle. Alors ça, pour le coup, c'est des stéréotypes. Et le Moyen-Âge n'ignore absolument pas l'usage des étuves, des bains. On se lave, on a une hygiène personnelle au Moyen-Âge qui est tout à fait évidente. Et c'est plus tard... à l'époque moderne, que certaines catégories sociales, en particulier certaines élites urbaines, vont commencer à avoir peur de l'eau, d'histoires de germes, et donc renoncer pour certains à l'usage du bain, couvrir, masquer les mauvaises odeurs par des parfums, etc. Mais, et même à l'époque moderne, quelqu'un qui est un travailleur de force, qui va monter un mur tout l'après-midi en plein soleil, à la fin de sa journée, qu'est-ce qu'il fait? Il va au puits, il remonte un seau d'eau, il se rince, quoi. Enfin, c'est extrêmement naïf de croire qu'à certaines périodes, les gens sont débiles et crasseux parce qu'ils ont ravi de macérer dans leur crasse, quoi. Donc il y a aussi des moments où tout simplement le bon sens peut nous servir de boussole dans la réflexion sur les sociétés anciennes.
Et justement, les œuvres de fiction peuvent jouer sur les clichés, mais aussi les casser. Donc selon vous, qu'est-ce qu'il resterait à faire en termes de recherche, de coller au contexte historique dans toutes ces œuvres, que ce soit jeux vidéo, cinéma ou livres ou BD, tout ce qu'on peut voir en fait?
Je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est le plus mal représenté, c'est ce qui touche la spiritualité et la religion.
Ouais, ça c'est vraiment le...
Et que dans nos sociétés contemporaines qui sont hyper sécularisées, le rapport au christianisme et même la culture chrétienne assez fondamentale, quoi, est en train de régresser de façon très, très importante. Parfois en cours, j'ai l'impression juste de faire le catéchisme parce que j'explique. Alors, les évangiles sont des biographies de Jésus. Bon, passons. Je pense que souvent, ouais, dans les fictions et dans le médiévalisme, le traitement de l'Église en tant qu'institution englobante et les personnages qui sont des religieux sont assez caricaturaux. Et c'est pour ça qu'un roman comme Le nom de la rose de Umberto Eco a fait date à la fois dans le grand public, mais pour les historiens aussi, parce que c'est une œuvre de fiction rédigée par un immense spécialiste du Moyen-Âge, dont les héros sont des moines, des religieux, qui représentent en fait tout l'éventail de la complexité qu'on pouvait trouver dans l'Église. Et c'est pour ça aussi que ce truc n'a pas pris une ride, quoi. Le nom de la rose d'Umberto Eco. Lisez ça absolument. Et sinon, il y avait cette adaptation. C'était Anon dans les années 90 avec Christian Slater, la star vintage par excellence. Vous êtes trop jeune, vous ne connaissez pas. Et Sean Connery notamment, que je vous recommande pour une petite soirée au show ce week-end. Excellente représentation de l'Église.
Comment on peut positionner un personnage comme Frollo, donc du Bossu Notre-Dame, par rapport à d'autres personnages qui représentent la spiritualité, l'Église, et qui là sont que des fanatiques qui se transforment en sectes?
C'est un bon exemplaire, c'est une bonne incarnation de ce stéréotype, effectivement. Mmh. Et ça fait partie des personnages hyper déplaisants. Moi, j'ai tendance à faire une espèce de blackout quand je vois des œuvres comme ça avec des religieux fanatiques.
Il y a un peu de ça dans Plague Tale aussi.
Dans le premier. Ouais. Et c'est pas mon aspect préféré.
Alors, vous nous parliez justement que, Amicia, telle qu'elle est dans le jeu, elle n'aurait jamais pu exister, mais que ça reste une très bonne héroïne de jeux vidéo. Par rapport à ce que vous n'avez pas pu toucher, ce qu'ont présenté les développeurs dans Plague Tale Requiem, donc les autres personnages, je pense à Hugo, à Lucas, l'alchimiste, ou à d'autres personnages, ou des lieux aussi, puisque le lieu change, là on est en Provence cette fois,
oui,
si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous, en tant qu'historienne?
Les relations, les dynamiques interpersonnelles sont complètement contemporaines et donc anachroniques. Mais comme c'est un jeu dans lequel la personne qui achète s'engage pour plusieurs heures, il faut qu'elle puisse s'immerger, s'identifier. Et des dynamiques médiévales ne peuvent pas forcément convenir. J'ai souvenir qu'à un moment, il y a une scène entre Amicia et le comte, un personnage du jeu, où elle se dresse devant lui, elle l'enguirlande, des choses comme ça. C'était dans des phases de développement, je ne sais plus si c'est passé dans la version finale, et où je disais « non mais ça, ce n'est pas possible, en fait ». Une jeune femme de se comporter, de se tenir, ne serait-ce que physiquement en fait, parce que y a les interactions humaines, les paroles qu'on échange, mais aussi la façon dont on se place et dont on manifeste les hiérarchies par les positions qu'on adopte les uns par rapport aux autres. Et l'aristocratie médiévale, par exemple, est extrêmement sensible à ce genre de choses. Donc, rien que la façon de s'adresser la parole, il y a des trucs qui vont pas du tout. Pour ça aussi, le personnage de la mère est aussi complètement anachronique, mais ça, je pense que c'est fondé aussi que ce soit anachronique, parce que sinon l'expérience du joueur aurait pas la densité émotionnelle qu'elle a présentement.
Alors, ce qui est intéressant avec une œuvre comme A Plague Tale, il y en a d'autres, il y a Kingdom Come Deliverance par exemple, c'est des jeux qui, même s'il y a un petit peu de fantasy ou qu'on s'écarte de l'histoire, c'est des jeux qui visent à être le plus fidèle possible. Donc dans A Plague Tale, évidemment, il y a des rats géants, il y a des marées de rats, il y a plein de choses comme ça.
Il y a des tours de rats qui s'empilent.
Il y a des tours de rats qui s'empilent, mais le jeu nous dit, on veut quand même être fidèle, que ce que vous voyez à l'écran, c'est le Moyen-Âge, bon du coup médiéviste. Mais il y a d'autres jeux qui s'en écartent complètement, c'est là où on va dans le médiéval fantastique, donc là on pense à Tolkien, on pense à Donjons et Dragons, à l'univers de The Witcher. Est-ce que la fidélité historique, ou en tout cas l'exactitude qu'on recherche, est la même? Même s'il y a de la magie, des dragons, est-ce qu'on recherche la même chose?
Je pense pas.
Vous qui êtes une lectrice donc, de science-fiction et de fantasy, hein, quand on lit du Terry Pratchett ou d'autres choses, est-ce qu'on se dit « ouais, ok, ça part quand même d'une bonne base de la représentation médiévale » ou pas du tout?
La question de la magie engage quand même un positionnement et un investissement radicalement différent en tant que lecteur. Et à partir du moment où il y a du fantastique, ouais, vraiment de l'ordre, dieu, dragon, magie, pouvoir surnaturel, etc., on sait qu'on lit quelque chose qui est autre. Mais ce que je remarque, moi, en tant que médiéviste, c'est que le fait que cette altérité liée à la magie, etc., soit par ailleurs enracinée dans la période médiévale, ça vient renforcer et redoubler cette altérité, parce qu'il y a l'idée que le Moyen-Âge est vraiment une période radicalement autre. C'est pas, par exemple, comme la fantasy de Harry Potter, qui commence avec un gosse orphelin dans une maison de banlieue, et on va à Londres, on prend le Poudlard Express sur un quai. Enfin, c'est là un rapport au réel qui est différent, parce que c'est un fantastique dans lequel on glisse insensiblement à partir du réel qui à peu près celui du lecteur. Que quand vous lisez de la fantasy qui est ancrée déjà dans le Moyen-Âge, vous êtes déjà dépaysé, emporté dans une autre réalité, une société dont on pose d'emblée qu'elle ne fonctionne pas du tout comme la nôtre, qu'elle est notamment beaucoup plus dangereuse. Il y a un côté un peu fantasmatique, un frisson, oulala, le Moyen-Âge, voilà, c'est violent. Bon. Et en plus, quand on rajoute les aspects fantastiques, eh bien on vient redoubler, et c'est ce côté dépaysement, et on est embarqué dans un truc autre. Donc c'est de la magie sur de l'exotisme. C'est une façon de pousser tous les curseurs, je crois, au maximum de l'évasion. Et bah, en tant que lecteur, c'est plaisant, et donc moi j'aime bien ça.
Moi j'ai une question, je suis désolée, est-ce qu'on peut dire c'est quoi le Moyen-Âge, la période, de quelle date à
mais
quelle
oui,
date
évidemment.
Parce qu'on l'a pas évoqué. Et je...
Ça c'est vrai, on pense, on se dit ouais, le Moyen-Âge c'est à peu près à cette période-là, mais finalement Roxane, qu'est-ce que c'est le Moyen-Âge?
Excellente question. C'est une période grosso modo de 1000 ans, et de façon traditionnelle, hyper scolaire, on la définit entre la date de la chute de l'Empire romain d'Occident, 1476, et alors au milieu du 15e siècle ou à la fin du 15e siècle, il y a un peu une concurrence des dates pour mettre des bornes, soit l'invention de l'imprimerie, soit la chute de Constantinople conquise par les Turcs, et la fin de l'Empire romain d'Orient cette fois, soit alors 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et l'idée qu'on a une extension du monde connu, un bouclage du monde vers les nouvelles découvertes qui ouvre vers autre chose et une autre période. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est des découpages scolaires qui sont hyper artificiels, hyper arbitraires, et qu'à aucun moment les gens se sont réveillés en 1477 en disant « Oh merde, c'est au Moyen-Âge !» Voilà.
Oui, c'est très occidental en plus comme découpage.
Absolument. Et le terme même Moyen-Âge est hyper dépréciatif. Le Moyen-Âge,
oui,
c'est l'âge,
c'est moyen.
Moyen, voilà. L'âge qui est inséré entre, donc entre quoi ? Bah, l'Antiquité et la Renaissance. Et le Moyen-Âge est une invention des gens de la fin du Moyen-Âge, des humanistes en particulier, des humanistes italiens du 14e, du 15e siècle, qui, tout soucieux de se mettre en avant et de se faire valoir comme de grands intellectuels qui ont tout redécouvert tout seuls avec leurs petites mains de l'Antiquité, comme si le Moyen-Âge n'avait rien transmis, on dit qu'ils incarnaient un retour à la bonne façon de s'exprimer, notamment à la pureté de la langue latine de l'Antiquité, du modèle de l'expression de Cicéron. Et en fait, ils ont tellement bien réussi leur opération d'auto-promo qu'ils ont réussi à convaincre l'Occident que fin 14e, surtout 15e, 16e siècle, dans les puissances occidentales, on vivait une renaissance. Et que puisqu'on vivait une renaissance, ce qu'il y avait avant, c'était forcément pas bien. Mais c'est une construction rhétorique, c'est une pure construction rhétorique. Et donc cette idée qu'il y a un âge sombre entre les lumières et la rationalité de l'Antiquité qu'on redécouvrirait à la fin de la période médiévale est, en toute logique, une absurdité. Et la Renaissance est un phénomène médiéval, s'il en est. Donc voilà, on est coincé avec ce nom de période qui est quasiment une insulte. Non, là, j'exagère.
Alors, comment on pourrait l'appeler, alors, le Moyen-Âge ?
Je sais pas, aidez-moi.
C'est vrai que là...
Là, j'ai pas d'idée, mais ouais, on va réfléchir.
Parce qu'au final, c'était une période, enfin, de comment c'est raconté maintenant de nos jours. On voit que c'est une période où la spiritualité avait une place importante. Est-ce que du coup, c'est vraiment ce qui l'a défini? Pas du tout, voilà.
Pas du tout, non, je vous fais un non de la tête vigoureux, mais ça se voit pas en radio. Non, et ça fait partie des stéréotypes qui sont attachés à la période médiévale, la domination de l'Église sur la société, ce genre de choses. Fondamentalement, c'est pas différent pendant l'époque moderne. Hein. Y a pas, là, pour le coup, de distinction très, très importante avec ce que connaissent les sociétés occidentales au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, non, la définition négative et en creux du Moyen-Âge est... quelque chose d'un peu empoisonnant pour les historiens et les amoureux de la période. Mais en même temps, je crois que c'est tellement profondément ancré. Vous savez, on a ce découpage, donc cette périodisation historique qui structure nos programmes d'enseignement et la façon dont, administrativement aussi, entre collègues, on est répartis à la fac. Moi, j'appartiens à l'unité mixte de recherche Ozonus, qui est installée juste à côté du studio, à la maison de l'archéologie, où on est regroupés entre antiquisants et médiévistes. Et pour l'organisation des cours, on a des sections et on se répartit les cours entre antiquisants, médiévistes, modernistes, contemporanéistes, et après on s'organise entre nous. C'est quelque chose... Bon, alors après, il faut bien s'organiser. C'est un découpage qui a un usage tout à fait pragmatique, et entre nous, on sait bien que voilà, on peut se parler entre collègues qui travaillons sur le 14e, le 15e, le 16e siècle. On saute sur une rupture chronologique voilà, on fait de la recherche ensemble. De la même façon qu'on a beaucoup de personnes qui travaillent sur l'Antiquité tardive et le début de la période médiévale et qui sont très, très proches et qui mènent des projets de recherche ensemble. Mais c'est vrai que c'est structurant et c'est un peu poison, hein, cette périodisation hyper stricte.
Roxane Killa, qu'est-ce qu'on peut donner comme mot de la fin à cette interview? On a parlé de beaucoup de choses.
Pour finir sur une note positive, faites un truc en rapport avec le Moyen-Âge ce week-end, s'il vous plaît. Allez visiter la section médiévale du musée d'Aquitaine. Regardez le portail de l'église de votre village. Essayez d'identifier les saints, ce que vous voyez. Cherchez à comprendre l'étendue de ce que vous ne comprenez pas. Lisez un roman historique, regardez un truc médiévaliste sur Netflix. Voilà, pensez au Moyen-Âge et pensez à moi.
Ben merci beaucoup Roxane Killa, on va penser à vous. Manon et Raphaël, merci aussi d'avoir participé à cette interview.
Merci, c'était un plaisir.
Merci à toi Léo aussi.
Et on
merci
vous souhaite vous. Évidemment une bonne continuation Roxane. Campus
Bordeaux 98.1.
Campus Bordeaux
88.1.